Bonsoir tout le monde. C'est vrai que le mot conférence, pour moi qui suis ingénieur du son, il y a un côté, je ne sais pas, c'est pas mon habitude. Hein. Vraiment, je suis donc Christophe Auger, je suis ingénieur du son depuis une trentaine d'années. J'ai toujours partagé mon travail entre la prise de son en studio et le son en live, la sonorisation de concert et les créations sonores. Je viens plutôt du théâtre. J'ai fait l'école de la rue Blanche, l'ENSAT, quand elle était rue Blanche à Paris. Et donc j'ai plutôt fréquenté les plateaux de théâtre avec du sonore qui était encore assez balbutiant à l'époque, enfin, par rapport à... Je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps en me disant que tout ce dont j'avais rêvé quand j'avais 18-20 ans, ça existe maintenant. C'est-à-dire on peut tous les fantasmes les plus dingues au niveau du son, faire circuler le son, le transformer en temps réel, le programmer, enfin on peut tout faire avec des moyens qui sont quand même relativement abordables au niveau du matériel de diffusion et un ordinateur comme tout le reste. Et, après pour la diffusion du son, ça demande un peu plus de matériel, mais... voilà, donc le théâtre, la musique, il n'y a que le cinéma, où c'est vraiment un domaine où j'ai jamais travaillé. Conférence, moi c'est vraiment, pour moi ça va être important que ça puisse être le plus possible peut-être un échange, en tout cas n'hésitez pas à poser des questions, c'est j'ai l'habitude d'être derrière une console, devant une salle de spectacle, et moi à cet endroit-là. Donc voilà, je vais effectivement aborder avec vous l'arrivée du son dans nos oreilles. Il y a une question par rapport au monde dans lequel on vit, dans le fait que le visuel a pris une place quand même considérable. On consulte tout avec les yeux. Et pourtant, ce n'est pas la première chose qu'on fait. Notre premier rapport au monde, il est audio. Et on commence à entendre bien avant de voir. Dans le vent, tout le monde a commencé à entendre, sauf cas particulier, avant de voir. Et puis, voilà. Et là, on est dans un rapport quand même au monde où on a une sens... On est vraiment dans le visuel. Enfin voilà, c'était vraiment moi qui écoute la vie depuis quand même longtemps et qui je pense qu'on a vraiment, c'est quelque chose qu'on a développé, c'est ce rapport à l'écoute et en tout cas le fait que tous les sons qui nous environnent, on y est souvent absent. On voit les choses, on a appris à voir, enfin on est, ou alors je sais pas, il y a quelque chose qui s'imprègne au niveau du visuel, c'est peut-être une habitude. En tout cas, le rapport au sonore, c'est quelque chose qui reste beaucoup à développer, je trouve. Donc, je vous parle un petit peu de l'oreille. En tout cas, de comment le son nous arrive. Ah. Il est là, c'est l'oreille, le tympan. En fait, donc, les ondes sonores arrivent dans l'oreille externe, le pavillon, sont transmis par le conduit auditif. Tout ça, c'est la fréquence. Là, on est sur du mécanique, c'est le son, c'est de l'air qui se déplace. L'air qui se déplace, il vient appuyer contre le tympan. C'est une membrane qui reçoit la pression de l'air qui arrive et qui le transmet. À partir de là, on est dans l'oreille moyenne et ça devient mécanique, c'est-à-dire la pression sonore qui était dans l'air se mécanise par le marteau, l'enclume et l'étrier, le tympan appuyant dans l'oreille moyenne. La transmission se fait mécanique et puis on arrive à un autre niveau, à l'oreille interne, où là, la transmission va passer d'un état mécanique à un état nerveux, électrique, on va dire, par la cochlée. Dans la cochlée, on a les petites cellules ciliées, là, qu'on voit. Et ces petites cellules ciliées, l'étrier appuyant comme ça, et en fait, il crée une pression sur le liquide à l'intérieur de l'oreille. Ce liquide, le changement de pression du liquide, mais est capté par les petites cellules ciliées qui, elles, le transmettent au nerf auditif et le cerveau interprète ça comme du son. Ce qui nous intéresse, enfin, nous, les petites cellules ciliées là, qu'on voit, finalement, c'est dans le corps humain, ça fait partie des choses qui sont déterminées quand on est. On en a entre 15 et 20 000 dans chaque oreille. Et si on a une qui est détruite, 2, 10, ça ne se régénère pas. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qu'on perd. Même sans rien faire, juste de vivre dans le silence le plus total, le fait de prendre des années et de l'âge, la capacité et la qualité de perception des cellules diminue avec l'âge. On entend forcément moins bien à 50 ans qu'à 10 ans. C'est physiologique, c'est comme ça. Et donc voilà, en fait, tout le monde ici a contact avec le sonore, en tout cas, est en rapport avec le sonore, c'est ça ? Ouais, tout le monde, vous avez tous utilisé un micro ? Ouais, pardon. En fait, c'est exactement le même principe que le microphone, ça. Le microphone, le son arrive sur un microphone, celui-là. Pas trop m'approcher parce que je pense qu'il est en train d'enregistrer. Et en fait, il y a une petite membrane. Là, quand je parle, je fais déplacer l'air, les vibrations. La petite membrane sent les vibrations qui arrivent, le transmet, convertit exactement comme le tympan qui va convertir. Mécaniquement, il y a un électroniquement, enfin, je vous passe le lien, mais c'est exactement le même principe, quoi. Vraiment, l'oreille et le micro fonctionnent exactement de la même manière. Et de l'autre côté, le haut-parleur fait les. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais fait l'effet inverse. C'est toujours une membrane. On restitue. Après, on a converti une pression acoustique en un signal électrique. Quand on arrive de l'autre côté, on convertit un signal électrique en une pression acoustique. Le haut-parleur, on peut très bien se servir d'un haut-parleur comme microphone. Si je capte de telle manière à me mettre devant un haut-parleur, je peux m'en servir tout à fait en microphone. On l'utilise d'ailleurs pour amplifier le son des grosses caisses en studio et ça donne une certaine qualité de son suivant ce qu'on veut, mais on utilise des haut-parleurs en tant que micro pour mettre devant la grosse caisse. Ça donne un son très, très chaud, très. Donc voilà pour la partie un petit peu mécanique de l'oreille. Donc oui, les 15-20 000 cellules, ça c'est important, elles ne se régénèrent pas, quoi. Chaque fois qu'on a un accident ou que des lésions sur les cellules, sur ces cellules ciliées, c'est quelque chose qui ne revient pas. On ne peut pas revenir en arrière, il n'y a aucune possibilité de les réparer en dehors de ce que je disais de la traversée, enfin des années qui passent. Il y a tout notre environnement quotidien est susceptible d'endommager ces cellules-là. Évaluer les temps où on est exposé, les temps à partir du moment où ça devient un peu dangereux. Je ne sais pas si vous avez une idée un peu des décibels, ce que ça représente pour vous, 20 décibels, 40 décibels, 80 décibels. 20 décibels, c'est le silence. C'est quasiment. Ça n'existe pas trop. 20 décibels dans les studios, on peut arriver vraiment en se coupant. Des bruits extérieurs à l'isolation, avoir vraiment 20 dB. 40 dB, c'est le chuchotement. C'est deux personnes qui chuchotent, c'est à peu près 40 dB. 50 dB, c'est, on va dire, une machine à laver qui tourne, quelque chose comme ça. 80 dB, c'est un environnement routier, à un carrefour, des voitures, un peu, des klaxons, c'est 80 dB. Ça commence à être fatigant, 80 dB. Attendez, je cherche, j'avais un petit tableau qui peut m'aider. celui-là. Ah, il ne met pas tout là. Je le ferai. Et en fait, les, donc le, j'en étais 80 dB ouais, à un carrefour, ça commence à devenir fatigant. Le 80-85 dB, il faut quand même bien monter la voix pour s'entendre. 100 dB, c'est. Je ne sais pas. Enfin, c'est 120 dB, c'est le seuil de la douleur. Vraiment, 120 dB, on commence à avoir vraiment super mal aux oreilles. Là. Ça devient un peu possible. Et là, ce tableau-là, il référence un peu le temps. À 85 dB, je peux écouter un signal pendant 85 dB, pendant 8 heures, sans avoir de lésion à l'oreille. Ça va être dur à supporter. C'est vraiment, on est 80. C'est vraiment, vous êtes à la, je sais pas, à la terrasse d'un café, un carrefour où il y a du bruit pendant 8 heures, avec des gens qui klaxonnent, beaucoup de voitures, pas une. Ça commence à être. Et en fait, plus on monte en dB, là, plus c'est le temps où on peut rester confronté à ces dB-là sans avoir de lésions sur nos cellules ciliées, justement. Donc ça va super vite. Hein. À 91 dB, c'est déjà plus de 2 heures. Et ainsi de suite. J'arrive pas à voir tout le tableau. Là. Donc 120 dB, c'est ce que je dis, on n'y est même pas. Mais 115 dB, c'est 28 secondes. C'est-à-dire qu'une exposition pendant 28 secondes à 115 dB équivaut à une exposition pendant 8 heures à 85 dB. Sans avoir de lésion. C'est-à-dire que quand vous avez une notion à peu près quand vous allez écouter un concert, un truc qui envoie un petit peu, est-ce que vous savez à combien à peu près en dB là, il y a une norme, enfin il y a une loi maintenant qui nous impose, nous, quand on fait du son, de ne pas dépasser 105 dB en pic, en crête. C'est-à-dire donc normalement, quand vous allez écouter un concert, le son ne peut pas, en pic, sur un coup de caisse claire, enfin, des choses qui sont mal aux oreilles, des trucs comme ça, ne peut pas excéder 105 dB. C'est-à-dire, l'AG100 s'arrange, compresse, limite, pour ne pas avoir à dépasser 105 dB. Je pense que sans ça, enfin, tout le monde, vous connaissez tout ça, quand vous sortez d'un concert, c'est pas 105 dB en pic, il va être entre 95 et 105 dB et 100 dB à peu près pendant une heure et demie. Quand vous sortez, vous avez l'impression d'avoir des tissus, enfin du coton sur les oreilles. Quoi. Là, il n'y a pas forcément de, vous n'avez pas forcément de liaison, de lésion au niveau de votre oreille, mais la mécanique, l'oreille a quand même certes. C'est un mécanique de protection, en fait. Les petits. Où es-tu? Les petits osselets, là. Le marteau, l'enclume, l'étrier. C'est les plus petits os du corps humain, ça. C'est des os, en fait. Et là, ils atténuent, en fait, c'est-à-dire ça fait comme un compresseur, en fait. Quand les fréquences arrivent très fort pendant un moment, il y a un système qui fait qu'ils réduisent, ils se rétractent un petit peu, et en tout cas, c'est un système naturel qui permet d'atténuer un petit peu un système de protection, en fait. Et pareil pour les cellules ciliées, elles ont un système qui fait qu'elles atténuent la captation, ça fait office de compresseur. Mais c'est vraiment, l'oreille, c'est un truc, c'est comme si on vous met un poids sur le bras comme ça, au bout d'un moment, ou même un poids pas très lourd, vous portez là, un quart d'heure après votre bras est là, une demi-heure après votre bras est là. L'oreille, c'est exactement pareil, c'est-à-dire elle supporte pendant un moment, mais de plus en plus, sa mécanique de protection se relâche, en fait. Et comme l'oreille n'a pas de paupières, Et on a vraiment, par rapport aux yeux, on a tellement des gestes qui sont spontanés avec le visuel, ça viendra jamais à personne l'idée de regarder le soleil, par exemple. Forcément, on a un truc. Et pourtant, là, on n'a pas de protection sur le sonore. C'est-à-dire, tout d'un coup, s'il y a une explosion, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà été en contact avec des explosifs, en tout cas des choses de près, mais c'est vraiment ça, on est à 140 dB, des choses comme ça en proximité. Ça, c'est un truc. Regardez le soleil, vous avez une vitesse de réaction du cerveau qui va vous faire fermer les yeux instantanément. Pour les oreilles, on n'a pas ce truc-là. Les oreilles n'ont pas de paupières. Donc c'est vraiment se protéger, c'est avoir une notion du fonctionnement de l'oreille, du savoir de connaître un petit peu de la manière dont elle va arriver à se protéger ou pas avec le son, mais surtout d'avoir la présence mentale de se protéger en fait au quotidien. Le quotidien, je sais que ça dépend de la nature des vies qu'on a. Je sais que quand on vit beaucoup dans les transports, je vis beaucoup dans les transports. J'ai vraiment adopté maintenant, ça fait tellement longtemps, des techniques de protection. Moi, je ne peux pas arriver quand je fais un concert, si j'ai 4 heures, 5 heures de train ou 10 heures d'avion, je ne peux pas arriver au moment où je descends de l'avion ou je descends du train avec 8 heures et 85 dB. C'est comme si vous peignez et qu'on vient de vous couper la main, ou vous vous attachez les mains. J'ai plus, mon outil n'est plus fonctionnel. C'est clair. J'ai les oreilles en bois, comme on dit. Donc vraiment, j'ai appris, c'est tellement naturel en tout cas, à me préserver l'écoute. Et je peux vous dire que ça change énormément, parce que depuis le temps que je travaille avec des musiciens et tout le monde, surtout dans l'avion entre autres, ça, vraiment je leur dis de se protéger pendant le vol, les oreilles. Il y a énormément de basses fréquences dans un avion. La basse fréquence, non seulement en plus de vous épuiser physiquement, c'est quelque chose qui vient vraiment vous puiser dans l'énergie. Ça fatigue l'écoute énormément. Et le fait de se protéger, mais même en voiture, à part de voyager dans des super voitures très insonorisées, mais le fait de se boucher les oreilles, ou en tout cas d'atténuer son écoute, même avec un casque un peu fermé, avec rien dedans, ou quelque chose devant tout doucement, mais ça atténue quand même considérablement. Et faire 8 heures de voiture en s'étant bouché les oreilles, ça change complètement votre état, mais même physique, d'énergie quand vous arrivez quelque part. Ça, c'est. Enfin, moi, je l'ai tellement. J'en ai besoin. Enfin, j'en ai besoin pour mon métier, pour arriver en pouvant écouter quelque chose quand j'arrive dans la salle où on va travailler avec les musiciens. Donc sur les dégradations, il y a trois grosses pathologies pour la dégradation, pour les traumatismes sonores. Il y a la dégradation des cellules, c'est ce que je disais. Donc vos cellules sont dégradées, elles sont pas, vous manquez, si vous avez subi un traumatisme, vous pouvez subir des traumatismes à différentes fréquences. C'est-à-dire si, par exemple, les ouvriers, je ne sais pas si certains travaillent avec des machines à bois, par exemple dans le. Donc on sait que c'est des machines qui génèrent des fréquences plutôt dans le haut du spectre, dans les aigus. Et là, vous allez avoir les cellules ciliées, elles ont des fonctions, elles travaillent, chacune transmet une partie du spectre. Et donc vous pouvez avoir des cellules ciliées qui sont endommagées à certains niveaux du spectre en fréquence. En l'occurrence, les machines à bois, ça émet des fréquences, je ne sais pas, de l'ordre 5-6 000 Hertz, quelque chose comme ça. C'est des aigus. Et là, vos cellules vont être endommagées. Donc, vous allez sur un audiogramme, vous faites un audiogramme et vous voyez, clairement le déficit de fréquence à ce niveau-là. Et de la même manière, chez qui, pour une personne assez âgée, les gens âgés, comme on dit, entendent beaucoup moins les aigus, les fréquences aiguës, normales, dues à la vie. Une personne jeune peut, à 30 ans, avoir exactement les mêmes symptômes de
dégradation, en fait, le fait d'avoir perdu les cellules qui retransmettent au cerveau les aigus. Récemment, j'étais avec quelqu'un de jeune il y avait des grillons. Il y avait vraiment beaucoup de grillons où on était. Et je lui dis, c'est l'enfer, on va pas pouvoir bosser. Elle me dit, pourquoi? Ben, je lui dis, les grillons, là. Et je m'aperçois, c'était quelqu'un de pas plus jeune que moi. Yes. Et la personne n'entendait pas les grillons, quoi. J'ai aucun, zéro au niveau signal. Non. Les cellules n'entendent pas ces fréquences-là, ne transmettent pas au cerveau, il n'y a pas de grillons, il n'y a pas de problème. Et c'est quand même, après moi c'est mon job, moi c'est vrai que ces deux oreilles me font vivre depuis quand même longtemps, et pas que moi, donc c'est vraiment quelque chose d'important d'arriver à conserver, nous tous je pense, si vous emparez du sonore dans des créations artistiques, d'arriver à former votre écoute et en tout cas à restituer la puissance évocatrice du son, des fréquences à un auditoire, à quelqu'un à qui vous avez envie de transmettre cela. La deuxième, oui, j'en ai évoqué qu'une. Une pathologie, la deuxième, les acouphènes que vous connaissez, vous avez entendu parler. Donc il y a les acouphènes réversibles, c'est-à-dire que quand vous sortez d'un concert, par exemple, vous pouvez avoir une sensation d'acouphène, c'est-à-dire ça siffle, ou vous avez entendu, c'est tout à fait réversible, c'est votre oreille est fatiguée, les cellules ciliées continuent à transmettre un message un peu anarchique, le cerveau interprète comme du son, mais de manière passagère. C'est vraiment le côté c'est un peu la même chose que quand la rétine est imprégnée, si vous regardez une lumière, vous fermez les yeux, vous voyez toujours cette lumière, on a un peu cette analogie-là. En revanche, les acouphènes dus à des lésions. Alors là, ça se passe au niveau, c'est les cellules qui sont endommagées, qu'on subit un dommage, qui fonctionnent de manière complètement anarchique. Et elles fonctionnant, le cerveau interprète ça comme du son. C'est le fait que le cerveau interprète le fait que la cellule lui envoie un message, mais qui correspond à rien, qui correspond à aucune pression du liquide dans la cochlée, là. Et donc le cerveau génère une fréquence. Ça, je connais quelques personnes qui sont victimes d'acouphènes. Je pense que c'est le pire de la vie. Enfin je sais pas, ça me paraît un truc. Je sais pas, quelqu'un, non, ou quelqu'un qui a ce truc-là. Non, tant mieux. Et la troisième pathologie, c'est l'apparition de distorsion. Donc vous avez toujours pareil, des atteintes au niveau des cellules. En fait, vous percevez. Ça, je pense que tout le monde le sent à la fatigue. Enfin, je ne sais pas, mais c'est-à-dire vous faites très peu la différence entre les sons faibles et les sons forts. Tout devient un petit peu. Vous n'avez plus la nuance. Vous ne faites plus la chanteuse, je sais plus c'est qui. Oui, vous ne faites plus la différence entre les sons faibles et les sons forts, et vous sentez une distorsion. La distorsion, vous voyez ce que c'est. Donc, un son qui est relativement pur, vous le sentez, vous l'entendez avec une distorsion. Et surtout, je sais pas, la fatigue à l'écoute, ou quand vous êtes fatigué, vous êtes sorti tard, vous avez écouté de la musique longtemps, vous avez une sensation, le son vous prend la tête, quoi. Il y a un côté comme ça, on a envie de silence et on trouve que tout est fort. C'est un peu, donc c'est pareil quand c'est passager, quand ça devient toute la vie comme ça, je pense que ça devient juste insupportable.
Ça s'appelle comment ?
Pardon ? C'est un phénomène de distorsion. Non, alors là, je ne suis pas médecin. Non, C'est un phénomène de distorsion et de... Non, j'ai pas le terme médical. En cas. Il doit exister, ça c'est sûr, mais je vous en prie. Il y a un truc que j'ai découvert alors, en préparant cette non-conférence. C'est un travail de l'OMS sur un site dont j'ai oublié le nom. Comme on a Air Paris, en Ile-de-France, je vis à Paris. Il y a un site sur le son qui référence qui travaille sur le sonore. Et donc l'OMS a fait un travail sur l'impact sanitaire du bruit environnemental causé par les nuisances sonores liées au transport, tout ce qui est transport. Et ça m'a paru dingue, mais au total, en fait, ce travail qui est très récent, tous les ans, 75 000 années de vie en bonne santé seraient perdues dans l'agglomération parisienne à cause du sonore. C'est-à-dire, donc, 75 000 années de vie en bonne santé. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a 75 000 années de vie de personnes qui, n'ayant plus la santé, dues au sonore, se retrouvent avec des troubles. Ça me paraît possible, mais mis comme ça en chiffres, je trouve ça énorme. Ceci dit, de plus en plus, on voit quand même apparaître des organismes et des gens qui travaillent sur la prévention du sonore au niveau des engins et au niveau des protections, des mesures de protection pour les routes. Je pense que c'est lié un petit peu comme pour l'écologie, on va dire, où c'est quand même l'histoire de chacun. C'est chacun, ça nous regarde, l'écologie, de se mettre en œuvre comme le sonore, c'est-à-dire de percevoir la capacité de nuisance qu'on peut avoir à des moments donnés à travers nos engins motorisés, à travers... je ne sais pas, l'heure à laquelle on peut écouter quelque chose fort alors que des gens bossant le matin se reposent et que donc... j'ai souvent remarqué que quand même c'est par non-perception en fait de la nuisance qu'on peut faire. Ça m'est arrivé de demander, je trouve, et certaines motos par exemple qui développent... une nuisance sonore totalement délirante, je veux dire, on est proche des 120 dB, et je pense que ça m'est arrivé d'interroger la personne, le motard qui se gare, en lui demandant s'il avait conscience, je ne sais plus comment je tourne un peu ça, pas comme ça en tout cas, mais lui demander pourquoi ça fait autant de bruit, alors qu'il y a sûrement autant d'ingénieurs nippons qui travaillent, est-ce que ça ne passe pas de bruit, et je pense que la personne est là où il est le plus surpris, c'est le fait que je l'interroge sur le fait que moi, ça envahit, tout d'un coup, ça fait un effet masque sur tout le quartier, quoi. Il y a vraiment un truc, et je crois, je sais plus, je me souviens, il y a très longtemps, quelqu'un avait étudié le fait que quand une mobylette ou je sais pas quoi, une moto traverse Paris, le nombre de gens que ça réveille. C'était dingue. Et ça, là, c'est vraiment à chacun de percevoir ce truc-là, de percevoir la capacité qu'il a à créer, à faire partie des gens qui génèrent les 75 000 années de vie perdues en bonne santé. Bon, là, après, sur... oui.
Les 75 mètres.
Par an. Ouais, tous les ans. C'est des chiffres de l'OMS là, que je me disais bien qu'il y avait probablement des gens qui avaient travaillé parce que le sonore ça on commence à il y a plus qu'un balbutiement mais au niveau de la prévention autant pour les yeux, enfin, je prends toujours cette analogie-là, mais ça vient, je pense que tous avaient des lunettes de soleil. Je pense qu'aucun n'a de boule de protection auditive. Enfin, oui, mais je pense que je suis très près de la vérité en disant ça. Tout le monde a des lunettes de soleil, indépendamment de l'accessoire de mode fait, mais des bouchons, ça doit pouvoir être Oui, c'est ça en fait, il faudrait faire des bouchons style. Ouais. Ceci dit, il y en a, hein, le in-ear monitor. Là. Ouais.
Quand vous parlez de fatigue auditive, ça fait combien de temps que c'est généré?
Tout dépend de fatigue.
Pour l'exposition, par exemple, quand vous mettez 8 heures à 85 dB, il faut combien de temps de récupérer?
Là,
ça dépend de chaque personne.
Je pense que ouais, physiologiquement, ça dépend de la personne. Ouais, ça dépend de chaque personne. Comme la récupération physique, ouais. Je sais pas. Dès qu'on bascule un peu médical sur le, je peux pas vous répondre. Je sais que souvent le repos, enfin, la fatigue, le sommeil est récupérateur, et surtout, le silence, le dormir. Alors, c'est complexe ça, parce que personnellement, je ne dors pas dans le silence. C'est-à-dire, j'ai un doute, mais c'est un truc qui est... Voilà, je sais que je ne m'abîme pas le système auditif. Je dors en écoutant, en podcastant des émissions et en les écoutant. Donc, finalement, et c'est mon truc, c'est juste, ouais, je ne sais pas, c'est ma nature. Je ne sais pas si vous connaissez Alfred Tomatis, un médecin qui a énormément travaillé sur le sonore, la relation du travail avec le sonore, la relation des lésions avec la voix, enfin les lésions de l'oreille, la relation entre l'écoute et la voix, tout ça. En fait, l'histoire de Tomatis, c'est qu'il a été rattrapé in extremis, c'est lui qui raconte ça, hein, par l'oreille, je crois, quand il était nourrisson, alors qu'il allait tomber dans le vide et que sa grand-mère, je ne sais pas quoi, l'a rattrapé par l'oreille. Cette personne a fait son métier. Donc, non, mais je fais cette analogie, moi, parce que j'ai pas été rattrapé par l'oreille. Mais j'ai vraiment eu toujours, depuis toujours, la sensation que le sonore est la chose qui me parle. Et j'ai compris ça bien trop tard. Parce qu'à un niveau scolaire, par exemple, pour moi, c'était l'enfer. Si j'avais pu une transmission de tout par l'audio, ça aurait été considérablement plus facile. Le problème, c'est qu'on est sur beaucoup du visuel et que les choses, j'avais pas compris que moi, il faut que j'entende les choses, qu'il faut que j'écoute les choses et que je me réécoute les choses. Et là, ça rentre tout seul. Je suis. Mais tout ce qui est par les yeux, j'ai beaucoup plus de mal. Donc, je me suis perdu. J'étais où? Oui.
Pour les bouchons d'oreille.
Oui.
En fait, ça coupe énormément le son. Et du coup, quand on est en voiture, quand vous dites pour les mettre en voiture ou des choses comme ça, moi, c'est des questions qui me viennent aussi. Enfin, j'hésite à les mettre parce que justement, ça me coupe.
Alors, il y a bouchons et bouchons. Les bouchons qui équivalent au prix d'une paire de lunettes, par exemple, c'est réglable, on choisit le taux d'atténuation, on peut avoir des bouchons. Évidemment, la boule pièce de base, elle coupe le son, elle coupe pas le son, elle atténue le son surtout. Mais il y a des bouchons, en fait il y a plusieurs gammes, mais il y a deux grosses gammes. Il y a le bouchon vraiment type boule pièce qu'on achète à la pharmacie comme ça, et il y a l'appareillage, enfin le moule qu'on va faire chez un audioprothésiste qui est vraiment dédié à notre oreille. On a tous des oreilles différentes, une empreinte d'oreille est totalement une empreinte du son. Et en fait, après, on fait mouler l'intérieur de l'oreille, et des fabricants adaptent des systèmes d'écoute adaptés à notre oreille. Et là, vraiment, ça peut être. Vous pouvez utiliser ça pour écouter des choses, vous protéger et écouter, avoir un écouteur complètement dédié à votre oreille, ou avoir un système de protection qui filtre. Vous choisissez le filtrage, en fait. Vous pouvez choisir. Il y en a qui sont réglables et il y en a qui sont prédéfinis à moins 20, je parle moins 10, moins 20, moins 30 dB. Mais ouais, c'est sans doute un problème C'est pour ça que, par exemple, je pense que ça fait 3 ans, la police et les pompiers ont augmenté leur niveau de sirène en France. Ils ont augmenté de 5 ou 10 dB, quand même. Et alors, des sirènes qui étaient à 100 dB, elles sont à 110 dB. Je ne sais pas exactement.
Les voitures sont trop isolées.
Les voitures, ouais, surtout les gens, beaucoup de gens ont des choses ont des choses dans les oreilles. Donc en fait, c'est quand même un peu la course. D'un côté, c'est tout des photos de boulot. J'avais pas pensé à l'économiser. Ouais, c'est quand même, on se protège, en même temps on se protège du son, mais en même temps c'est quelque part un peu la course. Voilà, on écoute généralement, les sirènes augmentent, le trafic augmente. On vit dans un environnement vraiment quand même super noisy, quoi, hein, dans les villes, dans le métro, tous les transports, mais même le train. Hein, je veux dire, le train, c'est entre 70 et 80 dB. Pendant, si vous prenez le train 3 heures, c'est 3 heures à 75 dB à peu près. Si vous faites 3 heures de train en vous protégeant, vous sentirez nettement la différence. Vous sortirez, vous enlevez les bouchons quand vous sortez du train. C'est waouh! Il y a vraiment un côté.
Voilà. Et puis, là. Oui!
Mais si on enlève les bouchons, est-ce que l'attaque n'est pas plus violente, justement, avec le... si on préserve les oreilles?
Ça dépend où vous les enlevez. Enfin, avec... si.
Même dans le environnement
dans
un environnement à peu près calme, où un bruit peut survenir aussi, je veux dire, l'attaque sera peut-être...
Non, mais je veux dire, non, il n'y a pas... Ouais, vous voulez dire l'oreille est détendue, elle est tout d'un coup là. Non, je pense pas. Mais non, on est non, c'est non, c'est évidemment, il faut pas passer. Si vous êtes à un concert, vous venez de vous protéger. Forcément, le plus dur sera la chute, quoi. Il y a un côté. Je sais pas comment dire. L'oreille est pas tout d'un coup. Vous n'ouvrez pas votre oreille de manière incroyable qui fait qu'elle va être plus vulnérable. Ça, c'est sûr. L'oreille, elle a ses mécanismes de protection. Katia Leibovitch, c'était super spectacle, ça. C'est une comédienne, hein, elle fait travailler sur le sonore. C'est vraiment des trucs, ça, voilà. Moi, je viens du théâtre et c'est un metteur en scène qui s'appelle Jean Boileau qui a fait travailler des comédiens vraiment sur le sonore en utilisant le sonore comme outil vraiment dans leur jeu. Et Katia faisait 5 ou 6 voix. Voilà, bref. Quoi. Oui, l'impact du son sur moi, avec le temps, c'est quelque chose que j'ai appris à le sentir, à affiner les perceptions que j'ai. Mais en tout cas, l'impact du son sur notre corps, il est énorme. Je pense que plus j'avance dans le temps, plus je comprends, plus je me documente, plus je comprends que l'impact du son sur notre corps, sur nos émotions, sur notre santé, il est vraiment énorme. C'est-à-dire que notre corps est en fait en vibration tout le temps, reçoit des vibrations et se met en vibration. Alors là, on n'est plus sur un problème d'oreille, on est sur un problème de captation, c'est-à-dire notre corps par conduction solidienne, par les os dont tu parlais tout à l'heure, nous transmet, on reçoit les vibrations. Je pense qu'au quotidien, on peut apprendre. Il y a plein de choses qui peuvent nous permettre de, en écoutant le milieu dans lequel on est, dans lequel on se trouve, ce qui se passe autour de nous, avec toutes ces années, moi maintenant j'ai appris, je me mets quand je rentre dans un café, ou quand je me mets dans une salle de cinéma, ou quand je me mets dans le train, je me mets en gros jamais par hasard, toujours en rapport avec le sonore. Si vous êtes dans un endroit un peu bruyant, avec plutôt des fréquences sourdes, un bar un peu avec du bas, où il y a du grave et tout ça, si vous allez vous mettre dans un coin de la salle, vous allez vous mettre à une place là-bas, vous allez vous prendre 10 fois plus, c'est dur à comprendre ça, mais beaucoup plus de basses fréquences que si vous vous centrez dans la salle, par exemple.
les basses fréquences adorent les coins. Elles vont s'amuser dans les coins. Et vous, vous, vous remarquerez, hein, si vous êtes dans un endroit un peu bruyant avec du grave, vous allez vous mettre dans un coin de pièce et vous allez sentir beaucoup plus le grave. Et en fait, tout notre environnement peut être à la fois avoir la conscience du sonore, c'est pouvoir se mettre dans un endroit en se protégeant de certaines choses, mais ça peut être aussi par choix, par se faire finalement un concert de ce qu'on entend autour de nous. Tout à l'heure, je suis sorti, entre le bruit des feuilles, il y avait un peu de vent, les corbeaux qu'il y avait au-dessus, quelques murmures et tout, c'est le début d'une pièce électroacoustique, c'était super beau. Mais moi, je suis grave, enfin, je suis déformé là-dessus, je n'entends plus que je n'entends plus que la vie comme ça, même quand ça peut être désagréable, ça peut être noisy. En même temps, je mélange les choses parce que c'est toujours une perception du sonore, c'est toujours être dans notre rapport au monde en écoutant. J'ai une place dans le monde où je reçois du sonore et où je vis avec, en fait. Je ne suis pas juste un corps qui vit d'un endroit à un autre, coupé, ou en tout cas sans conscience du sonore qui nous entoure. Ça permet à la fois de s'en protéger et ça permet d'en faire, de le modeler ou de le redonner ou de repenser des atmosphères sonores. Moi, dans mon job, quand la saison dernière, ou il y a 2 ans, je travaillais sur un spectacle d'un auteur qui s'appelle De Richter, qui savait bosser.
Non, c'est parce qu'il y a des larmes qui se réveillent dans les toilettes.
Ah, il y a toujours celle-là. Ça dépend des ordis, parce que j'ai pas les mêmes photos sur les différents ordis. Elle s'est mise dans un coin, dans une pièce. Ça y est, j'ai perdu le film. Richter. Et l'ambiance, oui, je travaillais avec un metteur en scène et il me dit, je vais mettre les comédiens. C'est un texte sur l'enfermement, sur ces villes. Ça se développe partout dans le monde où les riches s'enferment dans des villes protégées de tout, mais de toute la misère environnante et tout ça. Et en fait, c'est un texte super dur sur 3 comédiens. Et il me dit, je vais les mettre dans une boîte fermée sur une scène, tout ça. Il va falloir redonner à entendre tout le son de la pièce qui se passe. On est au théâtre, hein. Donc en fait j'ai bossé comme au cinéma, c'est-à-dire avec la petite microphonie. Mais surtout, il me dit, j'aimerais retrouver la pression sonore d'une ville, ce qui se passe autour pour le public, en fait. Et là, c'est important pour moi, le fait d'avoir tout le temps, j'ai une perception aux abords d'une autoroute, si je ferme les yeux et que je me dis quels sont... Comment je peux restituer le son aux abords d'une autoroute ici, là, dans cette salle-là, je vais avoir une idée, je vais savoir comment faire, parce que j'arrive à décortiquer. J'ai une analyse du son partout dans la ville, dans une cour d'école, pour les trucs un peu clichés comme ça, mais ça, c'est important pour moi dans la création, en tout cas dans ma posture et dans ce que me demandent les metteurs en scène ou ce que me demandent les gens avec qui je travaille, d'arriver à restituer ces ambiances sonores-là. Et le fait d'y être, d'être présent, d'être conscient à ce sonore, ça, c'est les outils dont il me faut.